enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Et je voulais lire avec vous un texte. Matthieu 1, versets 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans Luc 5, nous lisons un passage où l'apôtre Pierre va la première fois rencontrer Jésus. Jésus lui demande sa barque pour qu'il puisse prêcher, et après ça, il voit le pas brave Pierre, artisan pêcheur, qui n'avait rien pris, et il l'emmène un peu plus loin au large, ils font une pêche miraculeuse, et à ce moment-là, l'apôtre Pierre dit au verset 8, « Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10, deuxième partie du verset, « Alors, Jésus dit à Pierre, ou à Simon, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Enfin, j'ai de cœur un verset du Proverbe où il est dit, Proverbe 16, verset 4, « Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour du malheur. » Mon thème ce matin sera « Vivre, virgule, pourquoi ?» Point d'interrogation. Non pas pourquoi vivre, mais vivre pour quel but? Vivre pourquoi? Albert Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé. Autrement dit, Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Dieu fait tout dans une intention précise. Même a-t-il créé le méchant pour le jour du malheur. Nous venons de lire que Jésus est venu dans une intention précise. Il l'avait envoyé afin qu'il sauve son peuple de ses péchés. La vie du Christ avait un sens, un but qui pilotait ses décisions. À 12 ans déjà, il avait mis l'accent sur les affaires de son père plutôt que d'être accroché à la jupe de sa mère. À 30 ans, il va arrêter un commerce florissant. Il était quand même connu comme étant le charpentier de Nazareth. Et apparemment, ce n'était pas le seul charpentier, il était le charpentier. Le boulot qu'il faisait était bien fait, le prix était correct et les délais étaient respectés. Apparemment, il faisait de l'argent. Et pourtant, Jésus va se retenir et dire « Non, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venu, mon but est très différent. » Et puis, vous le savez, à bien des reprises, Jésus va refuser de se laisser dévier de sa course, même de celle de mourir sur la croix. Il va accepter, au prix d'une nuit de prière, d'accepter de prendre la croix pour toi et pour moi, parce qu'il avait en but le salut de l'humanité. C'était son but. Ce but pilotait sa vie quotidienne. Pendant des années, l'apôtre Pierre, lui, était artisan pêcheur. Il gagnait sa croûte. Mais voilà qu'à un moment donné, en rencontrant le Christ, tout va changer. Si jusque-là, il avait des questions sans réponse comme « Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que je fiche ici-bas? À quoi bon vivre? Quelle est la raison de mon existence? D'où je viens et où je vais ?» À un moment donné, lorsqu'il va rencontrer la puissance de Dieu, il va se repentir. Il se trouve pécheur. Et à ce moment-là, Jésus dira une phrase extraordinaire à Pierre qui va piloter le reste de sa vie. Il va lui dire « Je ferai de toi un pécheur d'homme. » Saviez-vous que Dieu a aussi un plan pour votre vie, qui que vous soyez, que vous le connaissiez, que vous ne le connaissiez pas? Saviez-vous que Dieu a fait exprès de vous faire comme vous êtes? Saviez-vous que Dieu n'a pas d'enfant illégitime? Peut-être y a-t-il des parents illégitimes, mais vous n'êtes pas un enfant illégitime. Saviez-vous que Dieu vous a fait naître au moment où il vous a fait naître pour une raison précise? Il vous a donné des talents et de l'intelligence, ou au moins pour une raison précise, parce qu'il a un but précis avec votre vie. Et bien aimé, j'aimerais vous dire ce matin, et que consciemment ou inconsciemment, il y a des hommes et des femmes qui cherchent constamment d'où je viens et où je vais. Et ça fait le fond de caisse de toutes les voyantes et cartomanciennes de France et de Navarre. Ces questions, mais que sera, de quoi sera fait mon avenir? Qu'est-ce que je dois décider? J'aimerais vous dire, nous avons besoin de réponses et l'Évangile apporte des réponses à ces questions fondamentales-là. Amen. Mais voyez-vous, cette même question, quel est le sens ou le but de mon existence, comporte une autre question implicite, celle de c'est quoi réussir sa vie? Certains buts peuvent avoir des aspects éblouissants, étourdissants, et pourtant, à l'issue de l'existence, on a le sentiment d'avoir raté sa vie malgré toutes ses réussites sociales. J'aimerais faire 3 points avec vous. Le premier point à voir avec vous, vous savez, il y a comme ça dans les avions ce qu'on appelle des pilotes automatiques. On enclenche un bouton et l'avion, on y fixe un cap et il fonce tout seul vers le but. Et même si le pilote venait toucher, etc., pour faire dévier la course, l'avion, ce serait impossible. Il faut d'abord qu'il arrête le pilote automatique. Saviez-vous, qu'il y a des pilotes automatiques de nos vies qui sont destructeurs? Deuxièmement, j'aimerais voir avec vous quels sont les bienfaits de connaître sa destinée. Troisièmement, j'aimerais vous montrer, à l'aide de quelques versets, comment découvrir quel est le destin que Dieu a forgé pour ma vie. Nous sommes chacun pour nous une pièce originale d'un puzzle bien large. Et nous avons tous besoin de trouver quelle est ma place dans le puzzle et puis de remplir sa place. Les membres et le corps sont une image de l'Église. Chaque membre a une fonction précise. Heureusement que Dieu ne m'a pas installé mon pouce à la place de l'oreille, n'est-ce pas? Eh bien, vous aussi, vous avez une place dans le corps de Christ et il est bon de le trouver. Alors rapidement, quelques pilotes automatiques destructeurs. Le premier, je dirais, c'est le matérialisme. Nos pays occidentaux sont incroyables, le nombre de gens qui sont pilotés par le matérialisme. Ils pensent que plus on possède, plus on est heureux. Alors évidemment, si on n'avait rien du tout, ce n'est pas une vertu non plus. Mais le fait d'accumuler et de posséder toujours plus ne remplit pas le cœur de l'être humain. Et on a déjà dit et répété, l'argent peut vous procurer un médicament, mais pas la santé. L'argent peut vous procurer un bon matelas, mais pas le sommeil. Il peut vous procurer de plaisir, mais pas le cœur d'une femme. Il peut vous donner une belle pierre tombale, un beau mémorial, mais pas la vie éternelle auprès de Dieu. Deuxièmement, l'argent, le matérialisme, on pense que plus on possède, plus on a de l'importance, plus on a de la valeur. J'aimerais vous dire que votre vraie valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais dépend de ce que Dieu pense de vous. Un jour, devant le trône de Dieu, il y aura des gens extrêmement riches à qui Dieu va dire « Je ne te connais pas. Et pourtant, mon fils avait donné sa vie pour toi afin que toi aussi tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais je ne te connais pas. Retire-toi de moi. » Enfin, troisièmement, dans le mythe du matérialisme, il y a cette idée que plus je possède, plus je serai en sécurité. Alors, il est vrai que l'argent assure une certaine protection, mais pas la sécurité absolue. Vous savez, on peut tout perdre en quelques instants. Et tous ceux qui avaient investi en bourse ces derniers temps l'ont remarqué de très près, n'est-ce pas? Et ce sont des facteurs que personne ne maîtrise, ni vous ni moi. Et tout à coup, tout est perdu d'un instant à l'autre. Voilà que des usines florissantes ferment 3000, 4000 postes. Vous n'aviez pas deviné non plus. Et on se retrouve sur la paille. La véritable sécurité se trouve en Dieu lui-même. Le fait de savoir que j'appartiens à Dieu et que ma vie lui appartient et que c'est lui qui dirige mon quotidien me donne cette sécurité intérieure. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais vers où je vais et je sais quel est le but que j'ai à accomplir dans ma vie. Amen. Deuxième point, un deuxième pilote automatique destructeur, le besoin d'approbation. Le nombre de gens qui fonctionnent sur ce besoin d'être toujours à nouveau approuvé. Je ne parle pas de ce besoin d'une bonne estime de soi dont a parlé Christian dimanche dernier. C'est très juste. Mais il y a des gens qui fonctionnent que à la louange des autres. Et toute leur vie va tourner autour du fait que il faut que les autres m'approuvent, m'applaudissent, m'élèvent, me louent à la limite. Et on devient esclave, des parents qui ont des exigences des fois excessives, esclaves des profs, esclaves de l'opinion publique, esclaves des copains et des copines. Et ça touche pas mal les adolescents et adolescentes. Ce que le copain pense, c'est important. Esclaves des gens. Jésus n'a jamais été esclave des gens. Jésus, c'est remarquable, à un moment donné, la foule le suit. Ils ont vu les miracles qu'il a faits. La foule le suit. Elle l'élève presque. Et à un moment donné, Jésus va dire une phrase que tout politicien ne dirait jamais. Il a commis un suicide politique. Il a dit que tous ceux qui veulent me suivre se chargent de leur croix tous les jours et qui me suivent. Et du coup, il y avait beaucoup moins de gens. Jésus ne s'est jamais laissé flatter par la foule. Jésus savait qu'il avait l'approbation d'en haut. Et c'est ce qui lui suffisait, c'est ce qui lui était suffisant et nécessaire pour avancer. Parce que voyez-vous, une fois que vous avez goûté à cette drogue de l'approbation de la foule ou des autres, ou des gens, ou des copains, ou des copines, vous aurez toujours besoin de renouveler à nouveau ce sentiment de bien-être. Et au fur et à mesure que vous avancez, le sacrifice sera de plus en plus grand. Jésus savait qui il était. Il savait d'où il venait et il savait dans quel but il était là, ici-bas sur terre. À moult reprises, il va dire « Je suis venu afin de sauver ce qui était perdu ». À la foule qui va s'étonner que Jésus ait mangé avec Zachée, il va dire « Mais je suis venu afin de chercher et de sauver ce qui était perdu. C'est là mon rôle essentiel. » Troisième pilote automatique destructeur, la peur. Le nombre de gens qui fonctionnent sur le mode de la peur. Certains ont vécu des traumatismes terribles, des divorces terribles, des enfances terribles. Ils ont vécu des trahisons terribles. Et la peur est là. La peur que ça se reproduise. La peur que ça revienne. Et bien aimé, cette peur-là, elle existe. Certains ont grandi dans des maisons à contrôle strict. Tout était toujours surveillé. La peur des parents, la peur de mal faire, la peur des profs. Certains même ont eu des prédispositions génétiques, c'est autre chose. Mais voyez-vous, quelle que soit la cause, les gens dirigés par la peur tentent de vivre des vies tranquilles, évitent de prendre des risques et limitent leur potentiel. Ils ont peur de l'avenir, peur de mal faire, peur de devenir comme, peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur de manquer. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, retrouve ta liberté en exerçant ta foi et en aimant autour de toi. Rappelle-toi, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ce même Jésus a pris en charge ta vie. Et tu peux déclarer, face à ce qui t'arrive, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me dirige près des eaux paisibles et près de verts pâturages. Il restaure mon âme. Et même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ça exclut la peur. Et des fois, je me redis ce psaume et je le relis et je lui dis, Seigneur, mais c'est vrai, c'est toi qui es en charge de ma vie. Je te l'ai donné et je te la redonne chaque matin. Conduis maintenant les choses. Amen. Quatrième pilote automatique. La culpabilité, la colère ou la rancune. Vous vous souvenez de Caïn qui avait tué Abel? Cet homme va fuir dans le pays et il va constamment être poursuivi par la culpabilité. Des choses qu'il avait faites dans le passé le poursuivaient. Et combien d'hommes et de femmes sont prisonniers d'événements du passé? Ils courent sans trouver du repos. Ils cherchent constamment à se racheter leur culpabilité. Je parle peut-être des femmes qui ont avorté. Dans le silence, personne ne le sait. Mais leur conscience le leur dit toutes les nuits et tous les matins au réveil. Des hommes et des femmes qui ont tué pendant la guerre même. Les cauchemars qui reviennent. Ou des parents qui ont raté l'éducation de leurs enfants parce que, à l'époque, il fallait faire carrière. Et puis l'enfant tourne au vinaigre. Et maintenant, voilà qu'on le regrette. On regrette ces années où on n'était pas là. On se sent coupable d'avoir été absent. Mais c'est de se racheter Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, arrête de courir, arrête d'essayer de payer. Viens à celui qui veut te donner la paix à ta conscience. Psaume 32, verset 1 dit, heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux cet homme-là. Il parle plus loin en disant, tant que je reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne, car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups levaient sur moi, etc. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts et je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Mon frère, ma soeur, il y a un Dieu dont Ésaïe dit. Ésaïe parle de Dieu en ces termes en disant, tu es celui qui ne se lasse pas de pardonner. Il se peut que tu aies fait des choses dans le secret de ta vie, que tu les pratiques et que tu les recommences malgré tes luttes et tes combats. J'aimerais te dire, reviens encore à Dieu et laisse-toi pardonner. Ne cours pas sous le poids de la culpabilité. On commence sur de la colère et de la rancune. Il y a un Dieu qui veut t'aider à pardonner. Des fois, nous chantons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. J'aimerais te dire, le premier qui se fait mal dans une histoire de querelle entre frères ou entre mari et femme, c'est celui qui ne pardonne pas. Tu t'attaches à celui qui t'a fait du mal. Tu te lis et ça continue à te faire mal parce que ça rumine et ça ressasse. Je t'invite à oser demander au Saint-Esprit la force de pardonner, de donner par-delà ce que l'autre ne mérite pas. Voilà les pilotes destructeurs. Caïn a été détruit. Judas, un homme de Dieu remarquable. Il a prêché avec les autres. Il a évangélisé avec les autres. Il a imposé les mains aux malades. Ils étaient guéris. Mais Judas avait au fond de lui un pilote automatique destructeur. L'amour de l'argent. Et à un moment donné, ça a pris le dessus et c'est revenu. Et finalement, ça l'a perdu. Il s'est rendu compte. Il a ouvert les yeux. Il a voulu se racheter en ramenant l'argent au temple. Et finalement, il s'est fait justice lui-même. Frères, sœurs, Dieu a une vie meilleure pour toi. Dieu a forgé pour toi une destinée, un destin. À Pierre, il dira, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Lui qui était un simple pêcheur, tout à coup, il prend de l'ascendant. Il devient un pêcheur d'hommes. Pour Jésus, c'était clair, il viendra afin de sauver son peuple de ses péchés. C'était son but. Écoute-moi rapidement les bienfaits de connaître le but de sa vie. Tout d'abord, connaître le but de sa vie donne du sens à l'existence. Sans Dieu, la vie n'a pas de but, et sans but, pas de sens. Et sans sens, la vie n'a ni signification, ni espérance. Si vivre n'est pas plus que manger, boire, dormir, respirer, travailler, construire, se reproduire, et finalement mourir, excusez-moi, mais la vie est une vie d'une stupidité incroyable. À quoi bon vivre ? Franchement, me faire tellement de peine pour finir entre quatre planches dans un trou, mais c'est stupide. Mais la vie avec Dieu a du sens et donne du sens. Dieu avait un plan avec Christ et il a aussi un plan avec toi. Allô, vous êtes là ? Il a un plan avec toi. Quoi que tu vives actuellement, que tu sois beau ou pas beau, en bonne santé ou pas en bonne santé, Dieu a un plan avec toi. Dieu a une destinée avec toi. Jérémie 29, verset 11 dit, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. La vie avec Dieu, c'est vivre. Tolstoï disait, connaître Dieu, c'est vivre. Deuxième bienfait, connaître sa destinée, connaître le but que Dieu a assigné à nos vies, simplifie notre vie dans la convergence de nos décisions. Je m'explique. Jésus savait qui il était. Jésus savait pourquoi il était venu. Et maintenant, tout allait converger vers ce but. À 30 ans, il n'a pas eu de mal à dire, « Eh bien, je rends le tablier de charpentier. » Parce que mon but, c'est ça. Il a marché. Lorsqu'à un moment donné, même l'apôtre Pierre viendra, lorsque Jésus dira, « Mais dans quelque temps, les gens me prendront et ils me crucifieront. Mais 3 jours plus tard, je ressusciterai. » Et Pierre dira, « Mais non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas à toi. C'est pas possible. T'as pas vu la foule qui nous suit? T'as pas vu maintenant comment ça va de la renommée, de la réputation? Ah, arrête ton discours. » Et Jésus va se retourner et lui dire sans l'ombre d'un doute, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles du diable. Et il avait une convergence dans ses décisions vers un même but. Et ça simplifie la vie. On n'est pas toujours en train de se demander, est-ce que je dois aller par ci, est-ce que je dois aller par là? L'apôtre Paul dira, Philippiens 3,15, « Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même pensée. Lorsque vous savez quel est le but de votre vie, on a plus tendance à choisir en fonction des gens, des circonstances et des pressions ou atmosphères environnantes, mais vous allez choisir en fonction du but à poursuivre. Amen. Troisième bienfait, connaître le but de sa vie donne de la passion, donne de la motivation. C'est Jésus qui, dans Jean 13, verset 3, il est marqué un petit démarrage de verset, c'est juste avant qu'il ne se mette à laver les pieds des disciples, il est dit de Jésus, « Ayant mis l'amour à son comble. » Bien-aimé, Jésus était venu afin d'aimer les gens et de les gagner à Dieu, de les réconcilier avec Dieu. Ce but lui donnait de la passion. Et plus tard, il va être dans les heures suivantes, il va être à genoux, à Gethsémané. Il va prier avec passion pour oser accepter, pour avoir la force d'accepter le calice et de le boire jusqu'à la lie. Parce qu'il aimait passionnément les hommes et les femmes que vous et moi sommes. Ce but qu'il avait en tête lui communiquait de la passion jusqu'au bout à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'aurais dit autre chose, hein. Franchement. Tenez, à quoi bon cela s'est trucidé ? À quoi bon cela s'est crucifié s'il n'y a pas de but ? Mais Jésus avait un but devant ses yeux. La joie de voir des hommes et des femmes plier leur cœur tout seul devant le trône de Dieu et dire « J'ai besoin de me réconcilier avec Dieu ». Et le premier fut un centenier romain qui a dit « Assurément, cet homme qui est mort là, c'est le Fils de Dieu ». Avoir un but dans sa vie communique de la passion. Rien n'est trop dur, on déplace des montagnes, on renverse des murailles, on se défonce car l'amour donne des ailes. Enfin, quatrième bienfait, connaître le but de sa vie nous prépare pour l'éternité. Saviez-vous que la vie ici-bas sur terre n'est qu'une vaste répétition générale pour ce qui vient là-haut ? Il y a des gens qui vivent comme s'ils allaient vivre éternellement sur terre. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas y arriver. Alors ils vont créer des mémoriaux, des statues, écrire des bouquins, faire des édifices, comme si l'humanité allait s'en rappeler dans les 1000 ou 2000 ans à venir. Mais c'est stupide. Parce que même si la terre vit encore 10 000 ans, j'aimerais vous dire qu'un jour, ce ciel et cette terre disparaîtront. On oubliera vos diplômes, on oubliera vos mémoriaux, on oubliera tout ça. Tout ce qui restera, c'est ce que vous aurez fait avec votre vie pour Dieu. Connaître le but de sa vie, mais pas pour l'éternité. Jésus aurait pu devenir un politicien, un orateur doué. La foule le suivait. Bien-aimé, l'apôtre Paul aurait pu devenir un religieux de son époque, rédiger des grands livres de théologie. Mais Paul a été un jour saisi par Dieu et il a poursuivi le but assigné par Dieu, amener l'évangile vers les païens non-juifs. Et il s'est efforcé de faire que ça et encore ça et encore ça, avec passion jusqu'à la mort à Rome. Bien-aimé, connaître le but de sa vie, mais pas pour l'éternité. L'apôtre Paul dira à la fin de ses jours, « J'ai combattu le bon combat. » J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Il avait reçu ce but et cette passion qui allait le préparer pour l'éternité. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Parfois, il nous est difficile dans notre vie de tous les jours de se rappeler, ou plutôt de remettre notre vie dans la perspective de l'éternité. Souvenons-nous de 2 Corinthiens 5:10, où il est dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun de nous reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Bien-aimé, des fois je me dis, on vit comme si la vie devait durer 20, 30, 50, 60 ans, alors que ce soir, à 8h15 peut-être, je serai appelé à être devant le trône de Dieu. Crise cardiaque, boum, fini. Je prends la voiture le matin, je rentre pas le soir. Fini. Il n'y a pas d'âge pour cela. J'ai 39 ans. Bien-aimé, souvenons-nous de cela. Quel est le but de ta vie ? Quel est le but que tu poursuis dans ta vie ? honnêtement ce matin? Est-ce que ce sont les pilotes automatiques destructeurs qui te gouvernent sous une apparence très chrétienne? Ou est-ce que c'est la connaissance que tu as du destin que Dieu a forgé pour toi? Parce que vois-tu, tu as un travail à accomplir qui t'est destiné à toi. Tu es original, non seulement du point de vue des empreintes digitales, mais tu es original de ta personnalité. Jamais plus le monde ne comportera un Claude Gréder. Et devant le trône de Dieu, on nous posera deux questions. Il y a une question qui s'est posée à tout le monde. Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ? Qu'en faites-vous aujourd'hui? Deuxièmement, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Ta vie, tes talents, le temps que tu as eu, les opportunités, ton énergie, tes relations, tes ressources, l'as-tu dépensé pour toi ou pour les buts que j'ai préparés pour toi et pour lesquels tu as été créé et dans lesquels tu te serais épanoui? J'aimerais vous dire que rentrer dans le destin que Dieu a forgé pour nous, c'est aller vers l'épanouissement. Papa Jean était vendeur de chewing-gum. Mais un jour, Dieu l'a appelé. L'a appelé à faire le travail qu'il avait à faire et qu'il a fait. Et ça a été source de difficultés dans les choix. Pas facile. Mais une fois qu'il est entré dedans, ça a aussi été pour lui et pour les siens source d'épanouissement, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Alors, j'aimerais peut-être conclure et dire, Dieu avait une intention précise avec la vie du Christ, avec la vie de Paul, celle de David, celle de Salomon, celle du frère Jean, celle de Claude, celle de Béatrice. Mettez votre prénom à la place. Comment connaître sa destinée? Comment savoir ce que Dieu veut de nous? Premièrement, rencontrer le Christ. Pierre, plutôt le Christ, a rencontré Pierre. Et d'abord, ce fut une rencontre de puissance, une démonstration de puissance. Ah! Et Pierre a découvert, Dieu existe, il est réel, il est là, et je suis pécheur. Il s'est mis à genoux et a dit, Seigneur, mais retiens-toi de moi, je suis pécheur. Et quand il a fait cet acte de repentance ou de regret de ses péchés, Jésus va venir et dire, maintenant, je te donne ta destinée, je ferai de toi un pécheur d'homme. Au moment où il a rencontré Dieu dans sa puissance, au moment où il s'est repenti, il est entré en collision avec sa destinée. Et puis une deuxième fois, c'est arrivé. Voyez-vous, Pierre savait qu'il était pécheur, de manière générale, comme tout le monde. Mais maintenant, il fallait aussi qu'il se rende compte qu'il était vraiment pécheur lui-même, tout seul, qu'il était pourri jusqu'à la moelle. Et on le retrouve, après Gethsémané, dans la cour du palais royal. Et à un moment donné, une servante lui dit, mais t'es pas un de ces disciples-là, ce Jésus qu'on est en train de condamner à mort? Ah non, 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 mais non, mais non. Et puis, à trois reprises, il va renier Jésus. Et puis, il se rend compte que ce que Jésus avait dit quelques heures auparavant est vrai. Qu'il allait lui-même le renier. Et Pierre va partir dans une nuit complète de confusion, de désespoir, de doute. Il va se rendre compte qu'il est lui-même pécheur. Qu'il est vraiment pourri jusqu'à la moelle épinière. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne croit plus à sa destinée. Il va retrouver son travail habituel. Jean 21, verset 3, il dit « Allons pêcher ». Et voilà que le lendemain matin, Jésus est là au bord du lac. Et les enfants, vous avez du poisson? Il y avait déjà un feu de près. Et il se rend compte, mais c'est Jésus. Pierre se rend compte, il s'habille, il plonge et il fonce. Et à un moment donné, il y aura une deuxième rencontre avec Jésus. Il y avait la rencontre de la puissance de Dieu. Maintenant, il va rencontrer l'amour inconditionnel de Jésus pour lui. Et Jésus lui dit, mais Pierre, tu m'aimes? Mais oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu es sûr que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Pierre, tu m'aimes vraiment? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu le sais que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. J'ai tout raté, mais je t'aime quand même. Et Jésus, à trois reprises, lui dit, va, paie mes brebis. Autrement dit, entre dans le destin, dans les projets que j'ai formés pour toi. Amen. J'aimerais terminer par cette dernière phrase. Pierre ne sera plus jamais le même homme. Pierre va complètement changer. Et ne laisse ni le matérialisme, ni la sorte d'approbation, ni la peur, ni la haine, ni la rancune, ni l'orgueil gouverner ta vie. Viens à Dieu ce matin. Rencontre-le à nouveau. Ou découvre-le simplement. Afin que tu découvres quel est le destin qu'il a forgé pour toi. Afin que ta vie Sois épanoui. Je résume ça en une seule phrase. Trouve enfin ta place dans le puzzle. Autant, c'est vrai, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Parce que Dieu aussi aime les seniors. Il y avait les ouvriers de la première heure, mais aussi les ouvriers de la 11e heure. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.